Alors Michel, eh bien, voilà, donc Chronique Castro, numéro 95. Donc si vous pouvez commencer, puis on coupera, voilà, l'actualité oblige. Et dans un premier temps, Michel, pour votre Chronique Castro, vous allez nous donner quelques nouvelles des missions spatiales humaines.
Voilà. Après les brèves de l'agglomération bordelaise présentées par Océane, je vais aussi donner quelques informations brèves de l'espace. La dernière fois, je vous avais parlé du Soyouz MS-22 arrimé à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui avait perdu dans la nuit du 14 au 15 décembre une grande quantité de fluide de son système de refroidissement, ce qui risquait de le rendre inutilisable pour le retour prévu de 3 astronautes en mars et poser aussi un problème de sécurité pour l'équipage de l'ISS en cas d'évacuation d'urgence. Depuis, une inspection vidéo à l'aide du bras robotique européen de la station a permis de déterminer la cause de cet accident. Il s'agit de l'impact d'une micrométéorite ou peut-être un débris spatial ayant perforé le radiateur de refroidissement extérieur avec un trou de 4 mm. Comme quoi, les dangers de ces petites collisions ne sont pas négligeables, même si des conséquences potentiellement catastrophiques, comme on pouvait le voir dans le film Gravity, restent très peu probables. L'agence russe Roscosmos a estimé que la capsule pouvait revenir sur Terre sans dommage, mais avec un risque d'échauffement important de l'habitacle, peut-être supérieur à 40 degrés. Elle a donc décidé de réaliser cette opération à vide, sans équipage. Mais elle laisse pour le moment cette capsule arrimée à l'ISS par précaution. Et le lancement du Soyouz MS-23, donc le suivant, a été avancé au 20 février, mais à vide, pour pouvoir ramener sur Terre l'équipage comme prévu. À noter que quand on dit à vide, cela n'exclut pas le transport de fret, des déchets évacués pour le Soyouz qui descend et du ravitaillement pour celui qui monte. Bien entendu, cette modification du planning perturbe toute la suite des rotations d'équipage prévues avec le lancement d'équipage par des vols Soyouz. À noter que du côté américain, une relève d'équipage est aussi prévue avec le lancement d'une capsule Crew Dragon de SpaceX le 26 février avec un équipage de 4 astronautes, puis la redescente prévue en mars de la capsule Crew Dragon actuellement accrochée à l'ISS avec son équipage qui est à bord de la station depuis le 6 octobre. À propos de SpaceX, le 4 janvier, j'avais parlé de l'assemblage imminent de son gros vaisseau réutilisable, Starship, sur son premier étage Super Heavy, constituant la plus grande fusée à ce jour avec ses 120 mètres de haut et 5700 tonnes en configuration de décollage. Cet assemblage a bien été réalisé quelques jours plus tard, le 9 janvier, sur sa base de lancement de Boca Chica au Texas. Il devait y être procédé à différents tests du lanceur et notamment ce qu'on appelle « wet dress rehearsal », en français « répétition générale mouillée » car on remplit les réservoirs, un compte à rebours fictif qui ne s'arrête que quelques dizaines de secondes avant l'allumage des moteurs. Et ce n'est pas une mince affaire, car les 5000 tonnes de méthane et d'oxygène liquide, donc très froid hein, dans les moins 180 degrés, malmènent toute la tuyauterie d'approvisionnement, les vannes, les soupapes et bien sûr les réservoirs eux-mêmes. Il faut savoir que sous l'effet de ce refroidissement brutal, les vaisseaux se contractent de plusieurs dizaines de centimètres. Ce test important a été réussi le 23 janvier. Il reste encore un essai crucial avec le démontage du Starship pour pouvoir tenter un allumage des 33 moteurs Raptor du Super Heavy, un test statique, le lanceur restant au sol, mais un test qui est assez rude pour lui et la plateforme de lancement. Si cette étape est franchie et que l'accord administratif pour un premier vol est obtenu, un premier tir avec vol orbital du Starship pourra avoir lieu dès le mois de mars. Ce serait un grand succès pour SpaceX car le booster Super Heavy n'a jamais volé et le Starship n'a atteint que 10 km d'altitude lors de son dernier test du 5 mai 2021. En parallèle de ces opérations, la société a réussi le 15 janvier le lancement d'une fusée Falcon Heavy qui a mis en orbite plusieurs satellites militaires de l'US Space Force. La charge très lourde nécessitant une poussée prolongée n'a pas permis de récupérer l'étage central, mais les deux boosters latéraux sont venus se reposer en douceur quelques minutes après le tir, la Falcon Heavy étant schématiquement un assemblage de 3 fusées Falcon 9 côte à côte.
Voilà Michel, alors les sociétés commerciales, spatiales et commerciales européennes n'ont pas la même réussite.
Oui, en effet, avec l'avènement du New Space, c'est-à-dire la délégation de certaines missions spatiales à des sociétés privées comme SpaceX, avec l'envoi des astronautes vers l'ISS pour le compte de la NASA, et le développement des activités spatiales produisant un marché du lancement des satellites de plus en plus important, on voit fleurir un peu partout des start-up du spatial qui connaissent plus ou moins de réussite dans leurs projets. Le 9 janvier, la société anglaise Virgin Orbit, avatar de Virgin Galactic de Richard Branson, avec la Royal Air Force et l'agence spatiale britannique, devait mettre en orbite 9 petits satellites. Son système de lancement est assez original puisqu'il est constitué d'une petite fusée de 17 mètres, baptisée Launcher One, larguée à plus de 10 km d'altitude par un Boeing 747 spécialement adapté pour cet usage et surnommé Cosmic Girl. Après avoir annoncé un peu trop vite la réussite du tir, la société s'est ravisée une demi-heure plus tard pour reconnaître un échec car la fusée n'a pas pu atteindre l'orbite prévue, donc aucun des satellites transportés non plus. Les deux précédents tirs, en janvier 2021 et juillet 2022, avaient pourtant été réussis. Et pour une fois, je terminerai cette séquence d'aéronautique par le carnet rose. Buzz Aldrin, le deuxième astronaute ayant foulé le sol lunaire quelques minutes après Neil Armstrong en 1969, pendant la mission Apollo 11, s'est marié le 20 janvier à Los Angeles à l'âge de 93 ans. Cela officialise la liaison avec son amour de longue date, hein, selon ses propres propos, le docteur Anka Faure, de 30 ans, sa cadette, est actuellement vice-présidente de la compagnie Buzz Aldrin Ventures, qui n'a rien à voir avec l'espace, étant un réseau commercial de stations-service et de magasins. À noter que c'était le quatrième mariage de l'ancien astronaute, les trois précédents s'étant terminés par un divorce. Cette bonne nouvelle est l'occasion de faire le point sur la douzaine d'astronautes américains qui ont foulé le sol lunaire, alors que nous avons achevé en décembre les célébrations des cinquantenaires des différentes missions Apollo. À ce jour, il n'en reste plus que quatre en vie. Buzz Aldrin d'Apollo 11, David Scott d'Apollo 15, Charles Duke d'Apollo 16 et Harrison Schmitt d'Apollo 17, le 12e et dernier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Et pour la petite histoire, on remarquera que deux des trois astronautes de la mission ratée Apollo 13, qui ont bien failli mourir dans l'espace, sont encore de ce monde, Jim Lowell et Fred Hayes.
Alors rien de nouveau du côté des sondes martiennes, Michel ?
Alors, la dernière fois, j'avais parlé du rover Perseverance, dont l'une des principales missions consiste à récolter des échantillons du sol martien sous forme de carottes de la taille à peu près d'une craie d'école, conservées précieusement dans des tubes en attendant qu'ils soient rapportés sur Terre par une future mission Mars Sample Return, hein, en français retour des échantillons martiens, conjointe de la NASA et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, entre 2026 et 2031. Nous avions appris que le 21 décembre dernier, il avait commencé à déposer un premier tube sur le sol martien et qu'il devait faire de même avec 9 autres au cours du mois suivant, les disposant à 5 mètres les uns des autres dans un tracé en zigzag. C'est une procédure de sécurité pour qu'ils puissent être récupérés par des drones hélicoptères afin qu'en cas de panne, tous les échantillons collectés et transportés par le rover ne risquent pas d'être perdus. Cette opération s'est terminée le dimanche 29 janvier avec le largage du 10e tube. Et tout s'est passé comme prévu, à part un décalage de quelques centimètres pour éviter de tomber sur un gros caillou. Pour ceux de nos auditeurs qui s'intéressent à l'exploration martienne et qui sont abonnés à cette chaîne payante, je signale que National Geographic diffusera ce soir à 21h un documentaire intitulé « ExoMars, l'impossible mission ». On comprendra ce titre en se souvenant que cette mission de l'ESA est quelque peu maudite, car sa première étape en 2016 a vu son atterrisseur Schiaparelli s'écraser sur la planète rouge, puis la deuxième, prévue initialement en 2018, a été reportée en 2020 car elle n'était pas prête, puis en 2022 en raison de problèmes avec ses parachutes de freinage, et à quelques mois de son tir prévu en octobre dernier, c'est le début de la guerre en Ukraine et l'arrêt des partenariats avec la Russie qui devait assurer son lancement. Actuellement, on estime qu'elle ne pourra sans doute pas avoir lieu avant 2026. Enfin, je terminerai cette série d'actualités par une petite frayeur. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, puisque la Terre a été survolée de très près par un petit astéroïde, comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias. D'une taille estimée entre 4 et 8 mètres, c'est assez imprécis car basé uniquement sur sa luminosité, or on ne connaît pas le pouvoir de réflexion de sa surface. Donc d'une masse de plusieurs centaines de tonnes, 2023 BU, comme il a été immatriculé, est passé à seulement 3600 km d'altitude, soit 10 fois plus près que nos satellites géostationnaires. Cela n'était pas suffisant pour qu'il devienne visible à l'œil nu, mais il fallait plutôt un télescope d'un mètre pour le voir vu sa petite taille. S'il nous avait percuté, cela aurait sans doute occasionné peu ou pas de dégâts, car il aurait probablement explosé dans la haute atmosphère comme celui de Tcheliabinsk en 2013. Mais notre inquiétude à propos de ces petits objets qui nous approchent de près vient du fait qu'ils n'avaient été découverts que quelques jours plus tôt, le 21 janvier, par l'astronome russe basé en Crimée, Gennady Borisov. connu pour avoir découvert en 2019 la première comète interstellaire en train de traverser le système solaire.
Allez, on est toujours avec Michel Favré, c'est sa chronique astro. Et là, Michel va aborder le sujet, le thème du mois, les comètes. Voilà, et peut-être d'ailleurs, Michel, une comète. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est ?
Alors, avant de vous répondre, je précise que le choix de ce thème est motivé par l'actualité avec une comète qui nous rend visite en ce moment, comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias, mais qui malheureusement n'était pas visible à l'œil nu, contrairement à ce qui avait été annoncé. J'y reviendrai dans ma dernière rubrique, le ciel du mois. Les comètes, ce sont des petits corps du système solaire, généralement de quelques kilomètres, donc minuscules par rapport aux planètes. J'ai souvent évoqué ici un autre type de petit objet, les astéroïdes, surtout quand ils viennent à nous frôler, comme le 27 janvier, en rappelant les cas de collision, comme par exemple il y a 65 millions d'années, ce qui a provoqué la disparition des dinosaures, ou beaucoup moins dramatique, comme le bolide qui a explosé au-dessus de Tcheliabinsk en Sibérie le 15 février 2013, et qui nous a donné des images très spectaculaires, filmées par des caméras de surveillance ou de circulation. Il peut aussi arriver qu'une comète frappe la surface terrestre. D'ailleurs, il y a un cas bien connu, qui est l'événement dit de la Tunguska en Sibérie. Le 30 juin 1908, vers 7 heures, les rares habitants de cette région presque désertique ont assisté à une énorme explosion dans le ciel. Heureusement pour eux, situés à plus de 60 km de leur village. L'enregistrement de l'onde de choc par les sismographes, équivalent à un séisme de magnitude 4,5, permet d'estimer que c'était plusieurs fois la puissance des bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. L'origine de cette catastrophe était l'entrée dans notre atmosphère d'un objet estimé à environ 50 mètres de diamètre et 62 000 tonnes, qui aurait explosé à environ 5 à 10 km d'altitude. Les armes ont été abattues sur une surface de 400 km² et la déflagration est entendue à plus de 1500 km. On discute encore aujourd'hui de la nature de cet objet cosmique, mais l'hypothèse d'une comète a été avancée en 1978 par Lubor Kresak, qui pensait qu'il pouvait s'agir d'un morceau détaché de la comète périodique de Encke, qui porte le numéro 2P. Des études plus récentes, en 2007, basées sur l'examen des fragments retrouvés, l'apparenterait plutôt à une autre comète, 97P, ou à un astéroïde. Ce n'est pas forcément contradictoire, car la distinction entre les deux types de petits corps n'est pas absolue. On sait maintenant que certains astéroïdes sont en fait des comètes éteintes, ne produisant plus de chevelure ni de queue.
Alors, quelle est la différence entre les deux, Michel ?
Alors, pour faire simple, les astéroïdes sont comme de gros rochers qui, pour la plupart, orbitent dans le système solaire entre Mars et Jupiter. Ils correspondent à un stade de formation des planètes par accrétion, sauf qu'à cet endroit, l'influence gravitationnelle de l'énorme Jupiter les a empêchés de se regrouper pour former une planète supplémentaire. Les comètes, elles, se sont formées beaucoup plus loin du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Neptune, dans une zone très froide. Elles contiennent donc de grandes quantités de glace. Pour se donner une idée de l'aspect de leur noyau, il faut revoir les photos prises par Rosetta de la comète Chury. Des sortes de falaises et de gravières parsemées de trous formés par l'éjection de la vapeur d'eau quand la comète se réchauffe à l'approche du Soleil et que la glace contenue dans leur sous-sol se sublime, c'est-à-dire passe directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par la forme d'eau liquide. Et c'est de là que vient la différence d'aspect dans le ciel. Les astéroïdes découverts au XIXe siècle en recherchant une éventuelle planète inconnue entre Mars et Jupiter n'apparaissent que comme des minuscules points brillants se déplaçant au milieu des étoiles, d'où leur nom qui veut dire « en forme d'étoile ». Le mot « comète » lui vient du grec « cometes aster », c'est-à-dire « astre chevelu », car elles apparaissent dans le ciel comme une longue traînée. C'est leur queue de plusieurs millions de kilomètres, parfois visible à l'œil nu, alors que leur minuscule noyau demeure invisible comme un astéroïde. Les comètes sont connues depuis l'Antiquité, mais s'agissant d'une apparition imprévue et temporaire dans le ciel, Aristote pensait qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique. Les pythagoriciens pensaient, eux, que c'était des planètes rarement visibles. Cette hypothèse cosmique s'est imposée à la Renaissance, quand on a constaté que la queue d'une comète est toujours à l'opposé du Soleil, quel que soit son sens de déplacement dans le ciel. Selon les croyances, elles étaient vues comme des présages favorables ou plus souvent néfastes. Par exemple, la comète de 1066, représentée sur la tapisserie de Bayeux, avait été considérée comme un mauvais présage pour le roi anglais Harold II, qui venait d'accéder au trône et effectivement, il a trouvé la mort peu après à la bataille de Hastings, qui a ouvert la porte de l'Angleterre à Guillaume le Conquérant. Mais donc pour lui, c'était plutôt un signe favorable. Une autre comète célèbre est représentée par le peintre italien Giotto pour la figure pour figurer la fameuse étoile de Bethléem sur une fresque de la Nativité, car il avait observé lui-même une comète en 1301. Ce qui est remarquable sur ces deux exemples, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il s'agit de la même comète, celle de Halley. En effet, Sir Edmond Halley recensa en 1705 24 passages de comètes entre 1337 et 1698, ce qui lui a permis de découvrir que certains correspondaient au retour régulier de la même comète tous les 76 ans, 1531, 1607 et 1682. Il prédit que cette comète reviendrait vers Noël 1758 et donnait la région du ciel où il faudrait la chercher. Malheureusement, il est mort 15 ans trop tôt, en 1742, pour savoir si sa théorie était exacte. Mais il avait vu juste, car le 25 décembre 1758, donc pile à Noël, à l'endroit prévu, elle était retrouvée par l'astronome allemand Johann Georg Palitzsch. Afin de rendre hommage à Halley pour cet exploit, on donna son nom à cette comète, et on retrouve dans les archives historiques qu'elle a été régulièrement vue depuis l'Antiquité, probablement depuis 611 avant Jésus-Christ, selon des annales chinoises.
Alors, est-ce qu'on donne toujours le nom du découvreur à la comète, Michel ?
Alors, en fait, les comètes portent des numéros, comme les astéroïdes dont j'ai déjà expliqué ici l'immatriculation. Dans le répertoire du MPC, le Minor Planet Center, ou Centre des planètes mineures, qui est la référence mondiale pour tous les petits corps du système solaire, les comètes découvertes récemment portent des numéros. Par exemple, C/2022E3 pour celles qui nous rend visite en ce moment. Comme les éditeurs fidèles le remarqueront peut-être, cela ressemble un peu à l'immatriculation des astéroïdes, avec l'année de la découverte, 2022, une lettre indiquant la quinzaine dans l'année et un numéro d'ordre de la découverte dans la quinzaine. Par exemple, E3, qui indique la troisième découverte dans la première quinzaine de mars. Et en effet, C/2022E3 a été découverte le 2 mars 2022 et on avait donc déjà découvert trois comètes en deux jours. Même si la plupart sont très petites ou très éloignées et n'auront jamais l'attention du public et des médias, il faut savoir qu'on en découvre souvent plusieurs par mois. J'ai vérifié sur le site du MPC et, sauf erreur de ma part, en 2022, il en a immatriculé 54, donc environ une par semaine, donc 15 périodiques qui sont plus rares. La différence vient de la première lettre, qui permet de faire aussi la distinction avec les astéroïdes, généralement un C comme comète, mais parfois un P quand la trajectoire calculée par le MPC indique que c'est une comète périodique, avec une période assez courte, d'au maximum 200 ans. La dernière de ce type découverte par le système de surveillance automatique Pan-STARRS le 13 janvier dernier est P2023B1. Certaines nous rendent visite très régulièrement, comme la fameuse Tchoury, ou plus sérieusement 67P Churyumov-Gerasimenko, qui a reçu la visite de la sonde européenne Rosetta entre 2014 et 2016 et orbite autour du Soleil en environ 6 ans et demi. On peut remarquer que son numéro 67P n'obéit pas à ce système de numérotation, car pour les comètes périodiques dont on a déjà observé au moins un retour, elles sont simplement renumérotées dans l'ordre de leur découverte suivie de P, hein, P comme périodique, de 1P, la fameuse comète de Halley, 2P, découverte en 1786 par l'astronome français Pierre Méchain, jusqu'à 456P, la dernière numérotée, qui avait été découverte en 2012 sous le numéro P2012Q3, puis redécouverte en 2021 comme P2021L4, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on l'a numéroté en tant que comète périodique vérifiée. Pour être précis, il semble que notre visiteuse du moment, C2022E3, serait périodique, mais avec une très longue période, qu'on estime à environ 50 000 ans selon les calculs de sa trajectoire. Du coup, elle n'est pas numérotée P, puisque sa période est bien supérieure à 200 ans. Nous laisserons le soin à nos descendants du 52e millénaire de corriger cela s'ils la revoient passer. Enfin, après le numéro, on accole un ou plusieurs noms. Depuis celle de Halley, les comètes prennent automatiquement le nom du ou des inventeurs, comme on doit désigner en science, les découvreurs d'une comète, mais aussi d'un trésor archéologique ou d'un nouveau virus. Malheureusement, comme la plupart sont découvertes par des systèmes automatiques de recherche d'astéroïdes, ce sont souvent des sigles barbares comme Pan-STARRS ou LINEAR. Ainsi, le nom complet de notre visiteuse actuelle est C2022E3ZTF, où ZTF signifie Zwicky Transient Facility. C'est un système de détection automatique grand champ, Chacune de ces images représentant une surface de ciel équivalente à 235 fois celle de la pleine Lune. Il est installé sur un télescope de 1,20 m de l'observatoire du Mont Palomar en Californie. Mis en service en 2018, il est conçu pour détecter des objets transitoires, hein, c'est le mot transiente dans son nom, qui changent rapidement de luminosité, comme les supernovae, mais aussi les objets mobiles, comme les astéroïdes et les comètes. Il a déjà découvert 11 comètes. À noter que le nom Zwicky est un hommage à un astronome suisse ayant terminé sa carrière en Californie, Fred Zwicky, qui est notamment connu pour avoir posé en 1933 l'existence d'une masse invisible pour expliquer ses observations des interactions dans les amas de galaxies, et c'est la fameuse matière noire.
Alors, à part les observer depuis la Terre, justement, on leur envoie aussi des sondes comme Rosetta.
En effet, mais les premières missions consistaient à partir à la rencontre de la comète qu'on croisait très vite, contrairement à Rosetta, qui a accompagné 67P Shuri pendant 2 ans, d'août 2014 à septembre 2016. La première sonde envoyée en 1986 vers la comète de Halley était européenne et baptisée Giotto, du nom du peintre dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est la première fois qu'on photographiait un noyau cométaire de près, avec les dégazages formant comme des grands panaches de vapeur et de poussière. Mais très vite, car le croisement s'est fait à environ 250 000 km/h et à 600 km de distance. Parmi les missions suivantes, les plus intéressantes me semblent être Stardust de la NASA, lancée en 1999, qui a recueilli avec une sorte de raquette des particules éjectées par la comète 81P Wild qu'elle a survolée en 2004 pour les ramener sur Terre en 2006. Puis Deep Impact, aussi de la NASA, lancée en 2005, à la rencontre de la comète Tempel 1, sur laquelle elle a envoyé un impacteur de 400 kg pour pouvoir analyser le panache éjecté afin de mieux connaître sa composition. Et bien sûr Rosetta, qui après un long voyage de 10 ans a pu rattraper 67P pour s'y placer en orbite et l'observer pendant son approche du Soleil. Et même si le petit atterrisseur Philae n'a pas concrétisé tous les espoirs qu'on avait mis en lui, cette mission a permis une énorme moisson de données et de photos qui seront étudiés encore pendant des années. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, prévoit l'envoi en 2028 d'une autre sonde, Comet Interceptor, qui aurait la particularité d'aller observer une comète ne s'étant jamais approchée du Soleil et serait donc restée dans son état initial. Toutes ces observations ont confirmé les hypothèses sur l'évolution des comètes. Ces petits corps très froids proviennent de réservoirs situés très loin du Soleil et qui n'ont jamais pu être observés directement. On distingue la ceinture de Kuiper, environ 30 à 50 fois la distance Terre-Soleil, d'où proviendraient les comètes périodiques, au sens d'une période inférieure à 200 ans. Puis le nuage de Oort, beaucoup plus lointain, à 20 ou 30 000 fois la distance Terre-Soleil, d'où proviendraient les autres comètes, à période très longue ou ne faisant qu'un seul passage à l'intérieur du système solaire, avant d'en être définitivement éjectées le long d'une trajectoire parabolique. Bien entendu, chacune de ces structures lointaines porte le nom de l'astronome ayant proposé son existence. L'Américain Gerard Kuiper, en 1951, et le Néerlandais Jan Oort, en 1950. Même si d'autres astronomes les avaient en réalité précédés, comme on le reconnaît aujourd'hui. Depuis ces réservoirs, qui compteraient des milliards de petits noyaux cométaires, selon les estimations actuelles, certains de ces corps glacés sont parfois éjectés vers l'intérieur du système solaire, sans qu'on connaisse très précisément les phénomènes gravitationnels expliquant leur déstabilisation. Au fur et à mesure de son approche, il se réchauffe, ce qui provoque la sublimation de sa glace en vapeur d'eau, donc l'activation de plus en plus intense de sortes de geysers qui emportent aussi des matériaux de surface, poussière et gravier. C'est toute cette matière éjectée qui va former la chevelure, puis la queue qui s'allonge dans l'espace sous l'effet du vent solaire, souvent sur des dizaines de millions de kilomètres. En fait, il y a deux queues, l'une de gaz, ou plutôt de plasma, poussée à l'opposé du Soleil par ce vent solaire et qui apparaît bleutée sur les photos. L'autre, légèrement décalée, car composée d'éléments plus denses sur lesquels le vent solaire a un effet moins fort, elle est appelée queue de poussière et apparaît plutôt blanche sur les images, et c'est elle qu'on peut voir parfois à l'œil nu quand la comète est particulièrement grande et lumineuse. Il faut retenir que les queues sont toujours soufflées à l'opposé du Soleil. Donc si elles sont bien derrière quand elles s'approchent, comme le panache de fumée suivant une fusée dans le ciel, elles se retrouvent devant quand elles s'éloignent, comme la fumée d'un bateau poussée par un vent arrière. Cette activité a été bien révélée par les sondes qui nous ont aussi beaucoup appris sur la composition du noyau. Il faut se méfier de ce qu'on voit sur les images, par exemple de Rosetta, car elle ressemble à des photos de la surface de la Lune, par exemple. Tout d'abord, on croit voir des rochers, mais la densité n'est pas du tout comparable, de l'ordre de 0,5 pour 67p, donc elle flotterait sur l'eau. La surface paraît claire alors qu'elle est très sombre, mais la luminosité des photos est forcée pour mieux voir les détails. Alors qu'on pensait que la région très froide où les noyaux se sont formés était peu propice aux réactions chimiques, on sait maintenant que sous l'effet du rayonnement solaire, notamment ultraviolet, des molécules simples sont cassées et leurs composants recombinés jusqu'à la création de molécules carbonées complexes, comme par exemple la glycine. C'est pour cela qu'on s'intéresse tant aux comètes. D'une part, ce sont des sortes de fossiles qui nous permettent d'avoir des informations sur la formation du système solaire et des planètes, et d'autre part, avec leur glace et ses composés organiques, qu'elles ont apporté sur Terre à l'époque des grands bombardements des planètes par de nombreux petits corps, elles ont certainement joué un rôle important pour l'apparition de nos océans et de la vie. Et pour finir, elles représentent parfois un beau spectacle à observer dans le ciel, mais pas que. Laissant derrière elles une trace de grains de sable et de petits graviers, elles sont à l'origine des essaims ou pluies d'étoiles filantes qui reviennent chaque année lorsque la Terre traverse par chance une de ces régions sales de son orbite, comme les fameuses perséides de l'été, ou d'autres moins connues, les orionides de l'automne, ou très bientôt, en ce moment, les deltas léonides, visibles de la mi-février à la mi-mars, avec un maximum autour du 21 février.
Allez, on est toujours en direct avec Michel Favret, c'est sa chronique numéro 95. Là, on continue à parler d'astronomie. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois. C'est la troisième partie de votre chronique.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes. Difficile de montrer des cartes à la radio et avoir plus de détails. Je l'ai mise à jour pour février, samedi dernier. En hiver, les jours commencent à rallonger depuis que nous avons passé le solstice du 21 décembre et cela se fait bien sentir en février avec la présence du soleil dans le ciel qui passe de moins de 10 heures le 1er à plus de 11 heures le 28. En ce moment, la nuit commence encore assez tôt avec le soleil qui se couche vers 18 heures et la nuit noire qui commence un peu après 19 heures. À la fin du mois, ce sera environ 3/4 d'heure plus tard. En ce début d'hiver, les constellations de l'automne sont encore visibles en début de nuit vers l'ouest, avec Pégase, facilement reconnaissable à un grand carré régulier, descendant se coucher en diagonale, surmonté par la double ligne d'étoiles d'Andromède, dans laquelle on peut encore observer la grande galaxie d'Andromède, l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à environ 2,5 millions d'années-lumière. Toute la région sud est dominée par les constellations de l'hiver, avec surtout Orion, le chasseur, bien identifiable à trois étoiles parfaitement alignées qui dessinent sa ceinture et deux groupes de deux étoiles plus écartées au-dessus et en dessous, formant un peu comme le motif d'un papillon. En réalité, ce sont ses épaules et ses pieds. Bien qu'elles soient un peu brouillées par la présence de Mars, on peut repérer autour d'Orion la figure du grand G de l'hiver, formé par les étoiles les plus brillantes, permettant de situer facilement les principales autres constellations de la saison. Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, produisant souvent comme un kaléidoscope coloré, et enfin Rigel, pied gauche d'Orion, puis Bellatrix et Bételgeuse, ses épaules, formant la barre du G. Un peu plus tard dans la nuit, les constellations du printemps apparaissent progressivement à l'est, notamment le Lion bien reconnaissable. Fin février, la situation sera analogue avec Orion bien haut dans le ciel au sud en début de nuit. Côté planète, on ne peut pas rater les phares très brillants du côté ouest. La plus à l'ouest et la plus basse, Vénus, visible dans le crépuscule, mais qui sera de plus en plus haute au fil des jours et restera donc visible plus tard dans la nuit. Plus haute et vers le sud-ouest en ce moment, Jupiter, dont Vénus va se rapprocher progressivement au fil des jours jusqu'à la conjonction très serrée du 1er mars. Vers le sud et très haut dans le ciel, Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée et encore très lumineuse, comme les étoiles les plus brillantes, bien qu'elle se soit déjà notablement éloignée de nous depuis l'opposition du 8 décembre. Comme chaque mois, la Lune s'approchera des planètes visibles dans une série de conjonctions. Le mercredi 22, un fin croissant sera pratiquement à mi-chemin entre Vénus et Jupiter, les trois astres formant un triangle régulier. Ce sera peut-être la plus belle conjonction de l'année du point de vue esthétique. Le lendemain, jeudi 23, le croissant sera au-dessus de Jupiter. Et enfin, le lundi 27, la lune gibbeuse, ayant à peine dépassé le premier quartier, se rapproche de Mars.
Si vous pouvez enchaîner, Michel, il me manque la dernière page.
Ah, c'était...
voilà, ça doit être dans l'imprimante. Voilà, donc désolé.
C'était bien évidemment pour parler de l'observation de la fameuse comète C2022-3ZTF. Elle était au plus près de nous le 1er février, à environ 40 millions de kilomètres. Autour de cette date, nous n'avons pas eu de chance avec la météo et certaines soirées voilées de nuages, mais surtout avec la grosse lune gibbeuse dont la clarté empêchait de percevoir cette comète à l'œil nu, ce qui aurait théoriquement été possible dans un ciel bien noir vu sa magnitude. Heureusement, la pleine lune étant passée dimanche, elle se lève de plus en plus tard, permettant l'observation de la comète dans de meilleures conditions en début de nuit. Par exemple, ce soir, où la nuit noire commence vers 19h15 et la lune n'apparaît que vers 20h. Et ce sera encore mieux les prochains soirs, avec une météo qui normalement devrait rester bonne au moins jusqu'au week-end. Mais il ne faudra pas trop tarder, car la comète s'éloigne de nous en devenant moins grosse et moins lumineuse. Samedi, elle sera plus loin de 50% par rapport au minimum du 1er février, à environ 65 millions de kilomètres, ce qui aura réduit sa taille de un tiers et son éclat de moitié. Elle devrait être facile à voir dans une paire de jumelles, comme une tache nébuleuse légèrement verdâtre. Et dans la page Ciel du mois de mon site, hein, je répète, www.constellationsetgalaxies.org, on trouvera le lien vers une carte permettant de connaître sa position quotidienne jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, on aura une meilleure vision dans une lunette astronomique ou un petit télescope. Et l'occasion pourrait justement s'en présenter dès ce week-end. En effet, tout le monde connaît les fameuses Nuits des étoiles qui se tiennent en général début août chaque été, mais l'AFA, Association française d'astronomie, qui en est l'organisatrice, propose aussi depuis 3 ans au club d'animer des Nuits des étoiles d'hiver pour accueillir le public et observer dans les télescopes les principaux objets du ciel hivernal. Cette année, ça commence demain, jeudi 9 février, jusqu'au dimanche 12. Comme en été, nous avions invité les clubs girondins à venir nous parler de leurs manifestations. Mais malheureusement, personne n'était disponible pour venir au micro ce midi, pas même Corinne, âgée 33, qui intervient cet après-midi pour des enfants d'un centre de loisirs du côté du Hayon. Je vais donc moi-même vous récapituler ces rendez-vous. JAL Astronomie accueillera le public pour une soirée d'observation avec ses lunettes et télescopes, samedi, donc le 11 février, à partir de 20h à Martignas-sur-Jal, plus précisément à la plaine des sports Colette Besson. De son côté, AG33, Astronomie Gironde 33, reste fidèle à ses sites d'observation au sud de l'agglomération bordelaise afin de bénéficier d'un horizon sud préservé de la forte pollution lumineuse de la zone urbaine. Donc ça commencera dès vendredi soir, le 10 février, de 18h30 à 21h au stade municipal de Villandreau avec l'association Adisha. À côté des observations aux lunettes et télescopes, à partir de 19h30, une animatrice apprendra à lire le ciel, comme on dit, c'est-à-dire à reconnaître les principales constellations, et racontera les légendes mythologiques qui leur sont associées. AG33 remettra ça le lendemain samedi, sur son site habituel du mémorial de la ferme de Richemont à Saucat, aussi dès 18h30. Comme toujours avec les Nuits des Étoiles, toutes ces manifestations sont gratuites et des cartes du ciel d'hiver seront distribuées aux participants. Mais la possibilité d'observer le ciel nécessite une météo favorable, donc à vérifier sur les sites respectifs de ces associations www.jal-astro.fr et www.ag33.fr. Et pour terminer, un dernier rendez-vous avec notre prochaine chronique astro sur O2 Radio, en principe le mercredi 8 mars.
Voilà, merci Michel. Il y aura toute une autre série, bien sûr, de chroniques. Et là, on rappelle, hein, c'était la 95. Et pour la 100e, voilà, j'espère qu'on arrivera à mener à bien quelque chose de sympa. Mais ça, on va pas le dévoiler à...
La 100e, d'après mes calculs, ça devrait être fin juin ou début juillet.
Voilà. Et puis là, on aimerait bien se retrouver en extérieur, mais on en parlera au moment opportun. En tout cas, merci Michel pour cette nouvelle chronique. Même si vous avez précisé dans la chronique, rappelez-nous sur quel site on peut retrouver toutes les chroniques archivées, c'est le numéro 95. Alors, on va retrouver ses petites sœurs.
Voilà, www.constellationsetgalaxies.org, donc constellationsetgalaxies tout au pluriel, tout attaché. En fait, le site parle surtout de l'ancienne activité de l'association qui existait à l'époque et dont j'étais le salarié, qui avait toute une activité avec un planétarium particulièrement. Mais la partie vivante, disons, du site, c'est la partie ciel du mois qui se trouve, hein, il y a un menu en haut dans la rubrique astronomie. Donc le ciel du mois et une autre rubrique qui s'appelle les chroniques audio radio, dans lesquelles on retrouve toutes les chroniques depuis la première en septembre 2014. Et dans l'ordre chronologique inverse, c'est, l'avantage, c'est qu'il y a une petite description du contenu de, la, de chacune des chroniques qui permet aux auditeurs que ça intéresserait de retrouver les sujets intéressants à réécouter. Parce que je pense que quand même, écouter systématiquement toutes les chroniques dans la liste, ça serait peut-être déjà très long et peut-être un peu barbant. Mais un sujet ou un autre, on peut
oui,
piquer les chroniques.
Oui, puis si on veut revenir sur une période précise, voilà,
ou
ça
un
y
sujet,
contribue.
Et moi, je m'en sers un peu aussi quand je prépare la chronique pour voir est-ce que j'ai déjà traité ce sujet, comme les comètes aujourd'hui. Et bizarrement, je pensais que c'est un sujet qu'on avait abordé souvent. Ça remonte à 2016, la dernière fois dont on a parlé sérieusement des comètes.
Bon, très bien. En tout cas, merci, hein, Michel, hein, parce que voilà, c'est plus qu'une passion, mais c'est beaucoup de travail de rigueur. Donc, ravi de vous retrouver chaque mois. Donc, rendez-vous le 8 mars prochain, voilà, pour la chronique Astro numéro 96.
Voilà, peut-être avec le premier décollage du fameux Starship de SpaceX, on verra.
Allez, encore merci beaucoup, Michel, pour votre investissement.